Bienvenue au Polysécur. Dans le cadre du Sécur, nous faisons une série d'enregistrements avec les conférenciers pour creuser le sujet. Cette fois-ci, je suis avec Bruno.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, Bruno Germain. J'ai fait la session sur le Zero Trust Architecture. Puis, un petit peu l'état des lieux par rapport à ça. Je travaille pour VMware. Je suis un architecte de solutions côté sécurité et réseau.
Est-ce que tu peux nous faire une courte, un résumé de ta présentation pour nous mettre dans le mood?
Oui, tout à fait, tout à fait. Dans le fond, au niveau Zero Trust, depuis quelques années, là, ça allait un petit peu dans tous les bars, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'influence du côté manufacturier pour dire qu'il y avait des solutions Zero Trust, qu'il y avait des produits Zero Trust, puis bon. Au fil des années, il y a eu une normalisation. Donc, c'est intéressant de revisiter où la norme en était rendue, qu'est-ce que ça, parce que ça s'était développé depuis l'origine, un petit peu le premier draft là, que John Kindlerberg avait publié. Puis, fait que c'est ça, de voir où on en était rendu d'un point de vue normatif. Puis après ça, où étaient les problèmes qu'on rencontrait aujourd'hui par rapport au déploiement et à la mise en place d'une solution Zero Trust. Puis une sorte de perspective d'avenir aussi par rapport à ça, là, un petit peu par où commencer, puis comment on pouvait aborder la chose.
Ben justement, parlons de l'état du cadre normatif où on est rendu. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Le NIST en a sorti une parlait. Certains fabricants ont quand même aussi, plus tu disais, il y avait des réfrigérateurs Zero Trust, mais il peut y avoir les fabricants ont sorti des différents partie du framework qui souvent était associé à leurs affaires. Google en a fait, tout le monde en a parlé, fait que peux-tu nous donner un état de comment c'est décrit et comment les gens l'ont matérialisé?
Oui. Dans le fond, ce qu'il faut faire, puis c'est intéressant que tu abordes le point de cette manière-là, c'est que de faire une architecture Zero Trust bout en bout, c'est extrêmement laborieux, il y a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'intégrations à faire, puis ce que je disais dans la présentation aussi, c'est qu'on va probablement commencer par certains domaines avec lesquels c'est plus facile, ça va être plus, dans le fond, on va être en mesure de mettre ça en place plus rapidement. Donc, les fournisseurs, les manufacturiers, les intégrateurs, qui eux avaient déjà une spécialité dans certains domaines, dans certains champs d'application, qui utilisaient, mettons, qui étaient très, très forts au niveau de la gestion des appareils mobiles ou qui étaient très forts au niveau de la gestion des identités ou qui étaient très forts, par exemple, au niveau de VMware, la microsegmentation avec les réseaux virtuels, bon, etc., ont proposé chacun une façon de procéder où dans le domaine dans lequel ils étaient très forts, ils étaient en mesure de mettre en place au moins une bonne partie de l'architecture Zero Trust dans le cadre de ce qui est en mesure de contrôler, si on veut, là, avec leur solution. Donc, au lieu de prendre l'architecture Zero Trust de manière générique, puis après ça, d'essayer de trouver comment tous les morceaux de robots allaient s'appliquer avec, le processus est un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'on part de la suite de produits qu'on a avec dans le champ dans lequel on travaille, puis à partir de là, dans le fond, on essaye de mettre en place une structure Zero Trust qui ne couvre pas tous les cas, qui ne couvre pas tous les domaines, mais qui est en mesure de le faire pour au moins une section de l'environnement qu'on a à gérer.
D'accord. D'un départ comme ça, d'un morceau petit vers le plus grand, qui est dans le fond une approche plus fabricant vers ce que c'est. Si on regarde du côté du top-down à ce moment-là, de comment la norme générale s'énonce, le NIST en fait une partie, mais moi, personnellement, je trouve que NIST est très réseau dans son regard. Il est malheureusement pas aussi large que Forrester pour l'aborder, ou même Gartner maintenant le présente avec Carta, entre autres, qui est leur mouture à eux autres de ce que c'est. Quand on part de ce côté-là, comment on peut redescendre ces éléments-là pour nous aider à nous guider?
C'est ça, c'est que dans le fond, ça va beaucoup être dans le processus, dans le fond, là, dans la méthode qu'on va aborder les choses. Donc, si on prend certains manufacturiers, je prends par exemple comme Palo Alto, parce que bon, John Kindlerberg y était, donc il a poussé la chose beaucoup, on va aller voir sur leur site, puis ils vont proposer une démarche avec des étapes précises pour commencer à comment qu'on regarde le problème, comment est-ce qu'on divise les usagers, comment est-ce qu'on divise les assets, comment qu'on divise les services. Après ça, on pourrait aller voir RSA, par exemple, qui eux font plus la gestion au niveau des identités, etc. Puis comment eux procèdent, puis comment ils vont la procédure ou le processus avec lequel eux abordent le problème, qui le prend plus du côté de la gestion des usagers. puis comment eux abordent ça pour essayer d'appliquer ça. Puis après ça, on peut aller voir Google, on peut aller voir un Azure, on peut aller voir parce que bon, on a peut-être une partie qui va être hébergée dans ces trucs-là. Partir du générique, ou NIST, je pense, avait un avantage par rapport à Forrester puis avec Gartner que tu mentionnais. C'est que au niveau de Forrester, ils ont beaucoup joué sur l'écosystème, c'est-à-dire ils ont essayé de répertorier tous les gens qui jouaient dans le milieu du Zero Trust. Je n'ai pas vraiment regardé la partie Gartner, fait que je me fais une petite réserve à ce niveau-là. Ce que NIST a fait, c'est que, dans le fond, ils ont un deuxième groupe qui, eux, ont pris la norme NIST, puis l'ont mis en application. Puis ils ont sorti un autre document qui lui dit, OK, ben voici ce que nous on a fait, puis voici comment on a procédé, puis voici les troubles qu'on a eus, puis voici, bon. Donc, NIST est comme un peu la forme, la norme, puis après ça, ben tu as le NCCOE qui lui a pris la norme, puis qui a dit, ben c'est parfait, voici, je vais essayer de le déployer, puis voici comment le faire. Donc, ça au niveau de partir top-down, c'est le seul truc que j'ai vu à date qui était vraiment plus proche d'une méthode pour l'appliquer.
Donc, okay, avec vraiment. De toute façon, il est beaucoup plus pratique aussi, là, parce que si je regarde les documents de le Forrester, ça fait longtemps, j'ai lu dans genre 2008-2009, au moment où c'était pas mal sorti. Il était très conceptuel, puis même encore à cette époque-là, puis là, tu disais que c'était Palo Alto, mais c'est tout aussi dans la mouvance du NAC. Du Network Access Control, que tout ça s'est positionné et tout ça est arrivé. Ce qui est dans le fond un premier balbutiement de ça. Là, il parlait de dépérimétrisation à l'époque, la disparition du périmètre. C'est maintenant qu'on va plus en info numérique avec la dématérialisation. Fait que c'était un peu les mêmes concepts, mais bien avant leur temps, dans lesquels ils sont faits. D'un point de vue, parce que tu es quand même chez VMware, fait qu'on va en profiter pour peut-être creuser cet axe-là aussi. Le fait de la micro-segmentation et tout ça, comment tout ça vient s'articuler dans l'ensemble de ce paysage-là aussi, et comment ça s'articule avec le NIST dans ça?
C'est-à-dire que, oui, bonne question aussi. Du côté de VMware, où on a innové, entre guillemets, c'est avec l'arrivée d'un control plane au niveau du Software Defined Networking, des réseaux contrôlés virtuellement ou par logiciel, je ne sais pas trop le terme français pour ça, là, mais le SDN. Ça nous a permis de gérer des systèmes qui étaient distribués d'un point de vue réseau. Donc, des fonctions distribuées au niveau du réseau. Puis c'est de là qu'on a été en mesure de dire, bien, c'est parfait, on est capable d'aller mettre des points de contrôle un peu partout dans un réseau, puis on a un control plane qui est en mesure de gérer ça, puis on sait où ils sont, puis on est capable de pousser les politiques. On n'était pas une compagnie de sécurité, puis je pense qu'on est en train tranquillement de rentrer plus là-dedans, mais a priori, on est vraiment arrivé dans ce milieu-là avec un point de vue très, très réseau. OK? La micro-segmentation, c'est une des conséquences de faire du Zero Trust, dans le fond. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire du Zero Trust si tu n'es pas en mesure de mettre des politiques sur tous les services et tous les assets et tous les usagers et tout le monde. Fait, dans le fond, tu n'as pas le choix d'avoir des points de contrôle qui s'appliquent à tous les morceaux. Ce qu'on n'a pas au niveau de VMware, c'est la partie qui est en haut, dans le fond, dans le modèle de NIST. La partie où on fait de la politique, qu'on est capable de mettre un score, puis après ça, de dire, OK, ça passe ou ça passe pas. OK? Donc, la partie logique, si on veut, là, qui fait la logique du Zero Trust, ça, on l'a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est la partie qui est juste en dessous, où, pour les services, surtout, d'accord, on est en mesure de venir appliquer cette politique-là. Si quelqu'un nous dit, ben c'est parfait, allez faire ça, laissez-le pas passer, ça peut juste parler à ça. Ça, on est capable de le gérer. On est capable de le gérer de manière distribuée. Avec l'addition de Carbon Black, qui est un produit qui faisait de la gestion des appareils des usagers, là, les assets, là, dans la terminologie de NIST, ben, on est aussi capable d'aller faire le contrôle puis d'aller étendre le control plane sur ces appareils-là aussi. Donc, on n'a pas nécessairement la partie usager, OK, comme tel. On est capable de faire les assets, on est capable de faire les services, mais ce que ça nous prend la logique qui vient s'asseoir par-dessus pour venir implanter là, prendre la décision puis nous dire de laisser passer ou pas passer.
Ben, cette logique-là, puis justement, dans ta présentation, tu faisais des liens sur le fait que tout ce scoring-là, un, est différent d'un fournisseur à l'autre, de ceux qui le font, parce qu'ils le font pas tous. Est-ce que tu as des exemples de comment ça fonctionne et d'ailleurs comment ça va s'interopérer parce que tout le volet d'interopération dans le cas de la solution de VMware est très importante parce qu'elle dépend d'une autre plateforme pour l'aider à être d'une efficacité utile pour le Zero Trust?
Exact. Je vais essayer de la répondre en deux parties. La première partie, c'est que une micro-segmentation, même sans le Zero Trust, si elle est bien faite et le control plane est bien déployé, venir asseoir la logique dessus par après, puis dire ben au lieu d'avoir des règles qui sont statiques, c'est le contrôleur Zero Trust qui va venir maintenant interagir. C'est déjà une bonne place de départ. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose que tu vas avoir à défaire. C'est pas quelque chose que tu vas avoir à repenser. OK? Tu vois, c'est pour ça que Chase Cunningham, puis j'en parlais un petit peu dans la présentation, dit que dans le fond, un des points de départ d'un point de vue réseau, où commencer, c'est vraiment faire de la micro-segmentation dans un modèle de least privilege, là. Puis, à partir de là, ben, tu vas pouvoir tranquillement bâtir puis t'en aller vers du zéro trust sans avoir à tout scraper tes périmètres et compagnie, là, et puis tout avoir à recommencer. Mais ça répond pas à ta question d'interopérabilité. Fait que si je reviens à la notion d'interopérabilité, pour le moment, il n'y a pas de ligne directrice. C'est d'ailleurs un des sujets que j'abordais dans la présentation en disant que cette interopérabilité-là, en ce moment, un coup qu'on établit une zone de trust avec du zéro trust dans un domaine, puis admettons que j'irais entre Google, Azure, On-Prem, identité versus d'autres façons de faire. Parce que l'engin qui est dessus pourrait dire, ben moi, je donne un exemple, je pars de 100, puis à toutes les fois que je ne rencontre pas certains critères, ben je descends le score. Puis en haut du score, en haut de 80, tu passes, mais en bas de 80, tu ne passes pas. Il y a des cloud providers que c'est l'inverse, c'est l'addition des trucs qui font en sorte que tu peux te retrouver à 500, 600, etc. Puis pour tel service, bien, il y a un score. Si tu ne passes pas 600, tu ne peux pas accéder au service. Puis pour l'autre service, bien, c'est 400, mettons. Donc là, à quelque part, on se retrouve dans un problème. C'est pas tant de dire c'est pas tant de dire comment je fais pour interfacer, parce que ça, au niveau bon, que la requête passe, que le paquet se promène, que que je dise, ben, c'est Bruno qui veut connecter à tel service, ce boulot est assez simple. C'est comment représenter, par exemple, un domaine de trust au complet, puis dire que tous les services à l'intérieur de ça ont le même, peut-être, niveau de trust pour parler dans un autre domaine, admettons. Puis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux faire ça? Ou est-ce que je me mets à risque à faire ça? Bon, etc. Puis, il faut vraiment que j'identifie chacun des éléments à l'intérieur d'une zone de trust avant de traverser. C'est tous des enjeux qui, en ce moment, là, les gens réfléchissent à ça. On n'a pas de réponse. Puis, on n'est pas... à ma connaissance, du moins, il n'y a pas d'implantation commerciale de ça.
J'en ai pas vu plus, fait que je suis plus au courant d'une implantation commerciale, mais je suis intéressé de savoir parce que derrière, puis là, tu fais beaucoup référence aux fournisseurs infonuagiques comme étant les principaux joueurs en Zero Trust parce que eux, c'est facile, ils maîtrisent l'ensemble de leur infrastructure, donc c'est pour eux autres qu'il y a une certaine facilité à ça. Et la transportabilité entre le sur-site et l'infonuagique est d'autant plus difficile. Et comme on vit dans un univers multi-nuages, parce que de toute façon, c'est illusoire de dire que tous nos services vont être dans un des fournisseurs, la probabilité est vue qu'ils vont être probablement dans plusieurs fournisseurs. Donc, le manque d'interopérabilité entre ces fournisseurs-là est d'une certaine complexité d'ailleurs. Et le labelling, là, tu fais une référence aussi au niveau de micro-segmentation, ce qui est la force de VMware au niveau du centre de données. Y a-t-il une façon de transporter, puisque là on parlait d'identité, mais vous êtes un peu absent de ce domaine-là en tant que tel, mais ce domaine-là aussi est important. Est-ce que l'identité est redescendue dans vos équipements ou encore là, c'est un élément qui, dans la considération de design, il faut considérer que c'est autre chose qui va effectuer ça, c'est vraiment au niveau réseau?
Bien, selon le service que je te dirais en ce moment, je prends par exemple les solutions de bureaux virtuels à distance, du VDI. La nature même du service fait que la personne doit s'identifier. Il y a un identifiant de suite au niveau de la personne. C'est pas comme juste un password ou juste un token ou peu importe. Là, il y a vraiment un usager. Puis peu importe, il peut s'identifier par certificat, il peut s'identifier d'une foule de façons. Mais le processus commence avec un usager. Donc, en partant de ce principe-là, la notion de d'avoir, mettons, des service accounts ou d'avoir toutes sortes de moyens qui sont plus info-nuagiques de nature, si on veut, fait que l'intégration dans un cloud, dans un environnement de type cloud, qu'il soit local ou pas, est beaucoup plus simple. À cette heure, dans ce scénario-là, on peut réutiliser le fait, comme par exemple bon, avec la solution VDI de VMware, le Workspace ONE et compagnie, on peut, au niveau micro-segmentation, faire le lien. Okay? On le fait. Si, admettons, si c'était du Citrix, par exemple, ou c'était du Remote Desktop de Microsoft, ou c'était un autre type de solution, même si le processus commence de la même façon, je ne suis pas certain que le niveau d'intégration qu'on a à l'interne entre nos produits se transposerait nécessairement chez Citrix ou se transposerait nécessairement pour une solution Microsoft. Est-ce qu'il y aurait, à ce moment-là, soit via des API ou autres, moyens de faire ces liens-là? C'est probable, mais encore une fois, il n'y a rien qui a priori existe pour faire ces trucs-là.
Oui, ben, tout le monde en parle, mais personne. Mais en fait, à la blague, c'est du réfrigérateur zéro trust. La réalité, c'est qu'on est dans une panoplie de composants autonomes qui le font. Et que, en tout cas, je n'ai pas entendu d'effort d'un consortium de fabricants qui ont convenu d'un protocole de dialogue entre leurs composants zéro trust individuels. Donc, effectivement, ça présente des défis. Ça présente le défi d'architecture parce que la réalité, c'est qu'on est rarement dans un environnement monolithe. La réalité, c'est c'est rare que juste un seul fabricant, même si le fabricant aimerait ça être le seul, la réalité, c'est jamais ça. Cette compétition-là aussi amène des meilleurs produits. Faut en faire mention. Donc, c'est tout qu'un défi, ce genre de choses-là. Dans le normatif, y a-t-il des choses qui pourraient guider davantage, justement, d'aider cette intégration-là, où on est encore vraiment laissé à soi-même, puis... De trouver un bon architecte.
Mon impression, c'est qu'on est encore pas mal laissé à nous-mêmes, malheureusement. Où je pense qu'il y a beaucoup d'espoir en ce moment, c'est que ce soit les équipements, que ce soit au niveau de solutions virtuelles, que ce soit au niveau du cloud, la notion d'interagir avec un service via des API est en train de se normaliser. Ça va, c'est que à la limite, tu pourrais programmer un firewall, un IDS d'un point de vue réseau, tu peux programmer une micro-segmentation chez nous, tu pourrais programmer des identités, toutes sortes de trucs, puis tout faire ça via API. Okay? Ce qui laisse, dans le fond, présager, je te dirais, de possiblement venir assir un genre de contrôleur qui comprend les API de différents manufacturiers, comme genre des plugins, si on veut, là. Puis que sur le dessus, il y aurait l'engin Zero Trust. Puis que selon les plugins qui est en dessous, ben il serait capable de déléguer puis de traduire dans le langage de chacun de ces API-là, dans le fond, la logique que lui implémente, là, dans le fond, au niveau du contrôleur Zero Trust, si on veut. Ça, à mon avis, c'est vers ça qu'on va tranquillement s'aligner. Comment que l'intégration va se faire? Bon, si je fais un parallèle, c'est un petit peu l'utopie ou le but de OpenStack il y a quelques années. Okay? C'était exactement le même principe. C'était d'avoir une interface qu'on pouvait programmer, dans le fond, qu'on donnait aux développeurs, puis on cachait la complexité d'intégration derrière, que ce soit pour le stockage, que ce soit pour la réseautique, que ce soit pour le compute. OpenStack était comme une sorte d'interface uniforme qu'on offrait, puis on cachait la complexité derrière, on faisait les interfaces. Mais ça n'a pas survécu. Fait que le modèle est pareil, puis si on se fie sur ce qu'OpenStack a fait, on pourrait peut-être se dire, bon, est-ce qu'on s'enligne encore dans le même modèle? Sachant que, bon, dans ce cas-ci, ça n'a pas fonctionné, il faudrait penser, dans le fond, avant de s'aligner sur ça, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour pas qu'on reproduise le même problème?
Entre autres, les problèmes qu'il y avait moins de traction à ce moment-là pour ce genre de choses-là, c'était une espèce de moment où, en tout cas, à mon avis, il y avait comme une espèce de pensée magique que tout le monde pouvait avoir son nuage chez soi. Ouais. C'est peut-être un peu cet univers-là. Et quand les gens se sont rendus compte qu'avoir son nuage chez soi était beaucoup plus complexe qu'il n'en paraissait, que de juste cliquer sur trois boutons chez Amazon ou chez Azure, puis là, pouf, tout apparaît. Ben, chez soi, il y a tout un préalable que Amazon et Azure ont fait que personne n'a vraiment fait. Là. À mon sens, c'est probablement ça que même si la complexité était retirée, il fallait quand même ramener tout le setup en arrière pour le ramener. Fait. J'ai espoir que ça va être remis en vie. Mais puis ce qui m'apparaît, puis probablement que la question est dans la tête de plusieurs personnes, ça l'amène en soi de la complexité du Zero Trust, même si ça l'en défait, mais ça en remet un autre. Ça l'amène potentiellement une certaine forme de lourdeur aussi au fonctionnement. Est-ce que tu as observé des choses dans ce sens-là?
Oui, tout à fait. Puis encore une fois, là, dans la présentation, je sais qu'il y avait des obstacles aussi à la Zero Trust, puis tu viens d'en nommer un, là, tu sais. Ça paraît pas, mais ça demande des spécialistes dans plusieurs domaines, parce que ça couvre assez large. Là, ça part des usagers, gestion des appareils, gestion des services, les communications, là, en tout cas, il y a toutes sortes de trucs. Il y a toute la rétroaction au niveau analytique, les engins qui vont faire la gestion de ça par-dessus. Ouais. Ça couvre assez largement. Puis ça fait en sorte que je crois que une implantation complète, là, ça va nécessiter des organisations qui ont les reins suffisamment solides avec du personnel qualifié pour le faire, ce qui ne sera pas nécessairement le cas partout. Par la force des choses, je pense qu'on va finir par en arriver à un Zero Trust Light, pour essayer de le qualifier, si on veut, où on va simplifier le modèle en sachant qu'on prend des risques, en sachant qu'il y a des trucs qui sont peut-être pas aussi bien attachés ensemble qu'ils devraient l'être, OK? Mais en sachant où sont les points faibles, ben à ce moment-là, mettre des trucs en place à ces endroits-là qui font en sorte qu'on monitore ces endroits de vulnérabilité-là au cas où il y aurait de fait une vulnérabilité puis qu'elle aurait été exploitée, tu sais.
Pour compenser effectivement la faiblesse qu'on aurait impliquée dedans. Oui, ben, un contrôle compensatoire de toute façon, là, dans des termes plus habituels. Très intéressant. On a exploré, parce qu'on a creusé certains aspects qui ont été effleurés dans ta présentation, mais ça ne remplace pas ta présentation. Fait qu'on, pour les gens qui ont assisté à l'événement, peuvent aller revoir ou aller voir la présentation. Elle est encore disponible jusqu'au 19 juin pour les possesseurs de billets. Il va y avoir aussi la possibilité de le revoir, j'imagine, plus largement plus tard. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder avant qu'on termine?
Non, mais pour le moment, je pense que c'est excellent qu'on aura l'occasion de se reparler, je pense, pour continuer à creuser ce sujet-là.
Tout à fait. Bien, je pense que c'est un sujet d'intérêt commun. Fait que je pense qu'on va avoir l'occasion justement de rebrasser ça avec des recherches supplémentaires et d'autres facettes. Merci beaucoup.
Et merci à toi. Bonne journée.